Les rivières au micro. Avec l'écho de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous écoutez l'écho de l'eau sur Radio Alence Plus. Nous sommes Elena et Julie de la Fédération de pêche du Gard. Et aujourd'hui, on préfère vous prévenir, nous allons aborder un sujet polémique, un sujet ultra sensible. Un sujet qui peut briser des amitiés et déclencher un conflit armé. Enfin, surtout si vous êtes pêcheur. Alors, si vous voulez changer de fréquence, c'est le moment, parce que le thème de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera le silure glane.
Vous le savez peut-être, mais dans le monde de la pêche, on pourrait dire qu'il y a trois catégories de poissons. Les poissons que tous les pêcheurs apprécient et respectent.
Comme la truite fario.
Et il y en a d'autres qui ne suscitent pas beaucoup d'intérêt.
Comme la loche.
Et ceux qui sont très impopulaires.
Par exemple, la perche-soleil, qui est une espèce nuisible.
Et puis il existe le silure, un poisson au physique disgracieux qui divise le monde des pêcheurs.
Et oui, parce que certains pêcheurs l'adorent et le considèrent comme une prise prestigieuse, alors que d'autres au contraire le détestent parce qu'ils l'accusent de choses très graves. Mais alors pourquoi un poisson déchaîne les passions à ce point-là? Toute cette controverse est-elle vraiment justifiée? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Mais quand bien même, on va se pencher sur la question et essayer d'y répondre aujourd'hui.
Pour commencer, quelques éléments de présentation. Le silure, de son vrai nom Silurus glanis, c'est le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Il peut facilement dépasser les 2 mètres de long, peser plus de 100 kg et vivre 60 ans. Physiquement, c'est une sorte de poisson-chat géant. Il possède 3 paires de barbillons autour de la bouche qui lui servent à détecter ses proies, avec une peau visqueuse et sans écailles. C'est une espèce originaire d'Europe de l'Est, qui a été introduite progressivement un peu partout en France, mais comme plein d'autres espèces de poissons. Il affectionne particulièrement les cours d'eau, avec un faible courant et un fond vaseux, si bien qu'aujourd'hui, c'est une espèce très commune dans nos fleuves, nos rivières et nos étangs. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais du coup, pourquoi y a-t-il une polémique avec lui?
Déjà, de par leur grande taille, ils alimentent des peurs et des fantasmes. On entend souvent dire que les silures mangent des chiens. Et parfois même carrément des enfants. Bon, on vous rassure, ce sont bien évidemment des légendes urbaines. Jamais un silure n'a mangé qui que ce soit. Alors il y a déjà eu des morsures de silure sur des baigneurs, c'est vrai, mais déjà ce sont des cas extrêmement rares, qui entraînent des blessures sans gravité. En plus, quand un silure mord un humain, c'est pas pour le manger. C'est généralement pour protéger ses œufs, car en juillet c'est la saison des baigneurs, mais c'est également sa saison de reproduction. Enfin bref. Tout ça pour dire que non, le silure n'est pas un danger pour l'homme.
Plus sérieusement, ce qu'on reproche au silure, c'est d'entraîner le déclin des autres espèces de poissons, soit parce qu'il les mange, soit parce qu'il leur fait trop de concurrence. En même temps, le silure est un carnassier opportuniste qui mange un peu de tout, principalement des poissons, mais aussi des amphibiens, des écrevisses, des petits mammifères, des oiseaux, et parfois même ses congénères pour réguler sa population.
Donc, récapitulons. On a un poisson géant introduit en France il y a 4 siècles, qui mange de tout et qui se porte plutôt bien. Parallèlement à ça, les autres espèces de poissons qui, eux, sont présents depuis toujours, comme les brochets ou les anguilles, sont aujourd'hui bizarrement en déclin. Donc forcément, le silure est très suspect, voire le coupable idéal. Du coup, s'il y a moins de poissons qu'avant, c'est à cause du silure.
Non, non, vous allez voir, la réalité est bien plus complexe que ça, et ça fait depuis quelques années qu'on sait que c'est pas vrai. Par exemple, en 2015, une étude a été réalisée pour essayer d'estimer l'impact du silure sur les autres espèces de poissons. Certes, le silure a un impact non nul sur l'écosystème qu'il côtoie, car c'est à la fois un prédateur et un concurrent. Mais l'étude démontre que pour autant, le silure n'est pas à l'origine du déclin généralisé des autres poissons, ni du brochet, ni du sandre, ni de l'anguille, ni de qui que ce soit d'autre. Ces espèces-là sont effectivement en régression, pour un tas d'autres raisons, mais dire que c'est la faute du silure, c'est un peu gros.
Par contre, cette étude précise qu'il y a un cas particulier où, par manque de données, ils n'ont pas pu estimer l'impact des silures. Ça concernait les poissons anadromes. Les poissons anadromes, vous savez, ce sont des poissons qui vivent en mer la majorité du temps et qui vont pondre en eau douce. Parmi eux, on a par exemple l'allosphinte de Méditerranée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un épisode précédent. Et si vous vous rappelez, on vous a déjà parlé du silure dans cet épisode parce qu'il est son seul prédateur en rivière. Et jusqu'à récemment encore, c'était compliqué de savoir à quel point les silures contribuaient au déclin des poissons migrateurs.
Mais un des plus gros soucis pour les poissons migrateurs, c'est justement d'arriver à migrer. Car ils vont rencontrer de nombreux obstacles artificiels qui entravent les rivières, comme les barrages notamment. Pour faciliter leur déplacement, des aménagements sont alors créés pour permettre aux poissons de contourner ces ouvrages. Mais les passages restent alors très étroits et deviennent des points obligés, pouvant alors se transformer en véritable goulot d'étranglement. Pourquoi on vous parle de ça? Eh bien justement, parce que les silures en profitent pour optimiser leur chasse. On vous l'a dit, le silure c'est un prédateur opportuniste au régime alimentaire varié, mais doté également d'une grande capacité d'adaptation. Dans le Tarn par exemple, un groupe d'individus semble avoir débloqué la compétence de chasse du pigeon. Ils attaquent et s'échouent volontairement sur la berge pour happer les oiseaux un peu trop proches du bord, rappelant le comportement des orques pour chasser les otaries. Et pour l'instant, il semblerait que seuls les silures d'Albi l'aient compris. En parallèle, des regroupements de silures sont aujourd'hui fréquemment signalés, aussi bien sur des sections naturelles qu'à proximité des barrages, et parfois même juste à l'entrée des passes à poissons. Et pour le silure, ce poste de chasse devient du pain béni. Vu que tous les poissons n'ont qu'un seul passage pour réussir à passer un obstacle, et que les poissons migrateurs n'ont qu'un seul objectif, celui de remonter la rivière, ou la descendre selon la phase de vie, la chasse devient alors super facile. De la même manière, les périodes de migration sont marquées par des flux importants d'une même espèce, et ça se ressent dans le régime alimentaire du silure, qui a une forte variabilité saisonnière, mais également une forte variabilité individuelle. Sur une même étude, par exemple, la proportion de poissons migrateurs consommés oscille entre 0 et 95% selon le silure. Certains chercheurs ont même précisé que, vu les forts taux de prédation observés sur les lamproies marines, il apparaît, je cite, « presque étonnant de voir cette population de lamproies se maintenir encore année après année en Loire et en Europe ». Bon, depuis quelques années, on va pas vous le cacher, c'est très compliqué pour cette petite espèce de survivre aussi. A l'inverse, l'équipe de Thomas Troncard en 2023 n'a mis en évidence que seuls 5% des anguilles argentées étudiées se sont fait prédater. Bon, il semble y avoir eu quelques manques dans la détection des capteurs, donc cette valeur est sous-estimée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces prédations semblent toutes avoir eu lieu à proximité d'un barrage. On ajoute à ça une mortalité d'anguilles induite directement par les turbines du barrage, estimée entre 28 et 35%. Je vous laisse faire la part des choses. Malgré tout ça, le silure reste mal aimé pour beaucoup, si bien qu'il existe des campagnes de régulation de leur population dans l'espoir de protéger spécifiquement les migrateurs. Il arrive aussi que des pêcheurs laissent volontairement mourir les silures sur les berges après en avoir pêché un. Et ça, c'est dommage pour au moins une bonne raison, c'est que le silure, ça se mange et c'est même très bon.
Donc, chers auditeurs, stop au gaspillage. La prochaine fois que vous pêchez un silure, même si vous ne l'appréciez pas, au lieu de l'abandonner sur une berge, mettez-vous au fourneau. Il y a plein de façons de le cuisiner. Vous pouvez le préparer en fish and chips, en papillote, et même rôti à la broche comme un cochon de lait. Il y en a pour tous les goûts. Après, n'hésitez pas à innover. Pourquoi pas faire des sushis ou un ceviche de silure. Vous lancerez peut-être la prochaine tendance culinaire à la mode.
Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez le réécouter sur le site de Radio Alliance Plus. Nous, on vous dit à dans 2 semaines. Et d'ici là, on espère que vous ferez moins de cauchemars sur nos amis les silures.